Alors le passage que je vais prendre ce matin, vous pouvez l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, il n'y a que trois versets. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Alors ces versets nous disent ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ces paroles sont des paroles de Jésus, qu'il a pu partager à cette époque-là, et pendant son ministère, Jésus a chassé des démons, des esprits impurs à de multiples reprises. Ce qu'on peut d'ailleurs voir juste un peu avant dans le même chapitre, hein, au verset 22, un passage qui nous relate la guérison d'un démoniaque, aveugle et muet que Jésus donc a guéri. Jésus a chassé le démon qui était dans cet homme, ce qui lui a permis alors de parler et de voir. Pour autant, l'objet de ces trois versets n'est pas simplement de nous présenter un miracle que peut faire Jésus, qui est de chasser un démon, tout comme l'objectif de ce texte n'est pas non plus de nous présenter au final la vie et le comportement d'un démon, à l'intérieur ou à l'extérieur. Jésus nous présente ici non pas une situation qui vient de se passer, pour de vrai, mais une image. L'image donc d'un esprit impur chassé de sa demeure, qui n'est autre qu'un être humain, et qui erre alors dans le désert, cherchant en vain une oasis de repos. Mais après l'échec de cette recherche, cet esprit impur revient alors dans sa demeure initiale, avec force, et ce qui arrive alors à cet homme est une condition pire que celle qu'il connaissait précédemment. Ce passage, cette image, a en fait été donnée comme un avertissement pour donc cette génération méchante. Un avertissement pour le peuple d'Israël, représenté principalement par ses chefs, les pharisiens, les sacrificateurs. Pour ce peuple, choisi par Dieu, dont la génération résistait pourtant à Christ. Une génération qui ira jusqu'à le rejeter complètement, jusqu'à l'amener à la croix pour le faire mourir. Parce que dans cette image, cet homme délivré représente donc Israël, et l'esprit impur dont il est fait mention n'est autre que le diable lui-même, qui par les travaux de Christ, de ses disciples, avait été chassé déjà d'un grand nombre de Juifs. Satan, dont la puissance était contrariée, repoussée, dont l'activité commençait à être neutralisée par la venue du Messie sur terre. Et par son ministère, Jésus était en train de faire le ménage, on pourrait dire, en lien à la demeure balayée et ornée dont il est question dans ces versets. Il faisait le ménage dans la maison d'Israël. Un ennemi chassé qui chercha donc du repos ailleurs, mais qui revint de manière plus forte encore vers cette génération. Et qui put en reprendre possession, par sa grande méchanceté, par son incrédulité obstinée, celle-ci était encore plus prête que jamais à le recevoir lui, l'ennemi, plutôt que Jésus. Donc oui, le but premier de ce texte était de montrer à ce peuple sa situation réelle. Ce texte est, on pourrait dire, une prophétie de Christ pour informer de l'état spirituel d'Israël et de son jugement imminent, de la désolation qui l'attendait. Une désolation marquée donc par le retour de l'esprit impur, des sept autres esprits encore plus méchants que lui, qui montrait bien une puissance des ténèbres qui allait déferler sur cette génération méchante qui était là devant Jésus. Maintenant, si je relis ce texte avec vous ce matin, ce n'est pas simplement pour vous faire ce rappel historique sur l'état réel du peuple juif, parce que je sais que chacun de vous sait déjà justement combien Christ a été rejeté par son propre peuple. Mais si je relis ce texte avec vous, et si Dieu a placé d'ailleurs ces trois versets dans sa parole qu'il nous a donnée et que nous détenons aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'ils sont toujours actuels. Aujourd'hui, nous vivons au sein d'une génération méchante. Et aujourd'hui encore, ces versets ont des choses à nous apprendre. C'est ce que je vous propose de regarder avec vous ce matin. Et le premier enseignement que je souhaite retirer de ce passage et que je vous propose, c'est celui-ci. L'ennemi est là et il n'est jamais loin de nous. Le texte nous dit que l'esprit impur est sorti d'un homme. Celui-ci est chassé de l'homme, mais n'est pas détruit. Et dans notre époque actuelle, Satan est toujours là. Le mal peut être vaincu, chassé, mais il ne peut pas être détruit. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 25, on peut lire aussi que Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » N'y rentre plus. Cet esprit impur est toujours là. En dehors de cet enfant, dans ce dernier verset, en dehors de cet homme, dans notre texte d'aujourd'hui, ou encore même en dehors de nous, si nous avons accepté le salut offert par Christ, salut qu'il a acquis par son propre sang sur la croix, un ennemi chassé, donc, mais toujours là et qui rôde, qui cherche à rentrer de nouveau. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ces paroles se trouvent dans la première épître de Pierre. Alors oui, frères et sœurs, ne croyons pas qu'une fois l'ennemi chassé, nous ne serons plus attaqués. L'ennemi rôde et attaque sans cesse. Pourquoi ? Tout simplement car il ne trouve pas et ne trouvera jamais de repos en dehors du cœur de l'homme. Une fois sorti, l'esprit impur cherche une nouvelle demeure. Mais il ne trouve que des lieux arides. Parce que ces lieux arides sont en fait une métaphore qui nous indique que vivre hors des hommes est pour lui un misérable bannissement. Dans un texte de Charles Spurgeon, je vais en reprendre un extrait, il peut dire « L'esprit malin est cependant inquiet lorsqu'il ne dirige pas l'esprit humain. Il erre à la recherche du repos et n'en trouve pas. Il ne trouve rien pour le réconforter sur cette terre, ni au ciel ni en enfer. Ce sont tous des endroits secs pour lui. Mais dans un cœur pécheur, il était chez lui et trouvait un peu de contentement. Mais dehors, dans la nature, il trouve un désert pour ses désirs impurs. » L'esprit impur ne peut pas trouver de repos dans des lieux inhabités par l'homme, tout simplement car par nature, il a besoin d'une âme à tourmenter, d'une âme à posséder. Donc oui, il est là et il rôde autour de nous. Et il revient. Il ne revient pas n'importe où, il revient près de sa demeure initiale. Alors pourquoi pas une autre ? Tout simplement car lorsqu'il a quitté l'homme, il ne l'a pas fait de son plein gré, il en a été chassé. Et alors Satan va chasser avec d'autant plus d'ardeur aussi ceux qui lui ont été arrachés. Il va continuellement rechercher des opportunités pour contre-attaquer, continuellement travailler à regagner le terrain perdu. J'avais pu lire il y a quelques temps, mais je pense maintenant quelques années, un livre de C.S. Lewis qui s'appelle « Tactique du diable, lettre d'un vétéran de la tentation à un novice ». Et j'avais trouvé celui-ci intéressant, ce livre, parce qu'il nous présente l'accompagnement d'un jeune démon par un vieux démon tentateur et comment ce dernier va lui partager toute son expérience et lui proposer une véritable stratégie afin de mettre en péril la foi d'un jeune chrétien. Alors, il s'agit d'un livre, il s'agit d'une réflexion proposée sur le sujet, mais qui nous montre, je pense bien, tous les efforts qui sont fournis par Satan pour nous entraîner. Et combien aussi il connaît bien notre cœur pécheur, notre nature pécheresse. Et il sait comment donc nous tendre des pièges. Alors oui, le premier enseignement à retenir est que l'ennemi est toujours là. Que le mal est une force qui peut être combattue mais qui n'est jamais éliminée, en tout cas jusqu'au retour définitif de Christ. Alors apprenons de ce texte que dès que Christ nous appelle aussi, un combat plus aigu, plus féroce nous est également préparé. Mais un combat pour lequel nous avons eu aussi cet encouragement, par Jésus lui-même. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Ce dernier verset nous amène à mon deuxième point. Parce que si Christ a vaincu le monde, sous-entendant Satan lui-même, tous ses esprits impurs, quand l'un d'eux revient et arrive devant la maison, devant l'homme qu'il avait précédemment quitté, dont il a été chassé, que se passe-t-il ? Si le Seigneur nous a libérés, peut-il nous atteindre ? Eh bien, le texte nous dit « Tout dépend de l'état réel de notre cœur. » Va-t-il le retrouver balayé et orné, comme l'évoque le verset 44 ? Balayé et orné qui signifie que nous avons peut-être fait du tri, rempli de zèle, nous avons entrepris un nettoyage, peut-être même un grand nettoyage dans notre cœur, dans notre vie. Et en cela, bien sûr, tout ça est bon. Mais le problème qui nous est relaté dans ces versets ce matin n'est pas ce ménage qui a été fait, cet embellissement. Il y avait un autre mot avec balayé et orné, il y avait le mot vide. C'est que la demeure est restée vide. Je vais prendre encore une autre citation de Charles Spurgeon qui dit « Le diable n'a pas d'objection à ce que sa maison soit balayée et garnie, car un moraliste peut être son esclave autant qu'un homme aux habitudes débauchées. Pourvu que le cœur demeure inoccupé par son grand adversaire et qu'il puisse utiliser l'homme pour ses propres buts, l'ennemi des âmes laissera l'homme réformer autant que cela lui plaira. » Balayé, orné, mais vide. Donc oui, c'est très bien d'avoir nettoyé la maison, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que celle-ci soit habitée, qu'elle ne reste pas inoccupée. Et aucune maison ne peut rester longtemps balayée, garnie, mais vide et inutilisée. Qu'est-ce que les voleurs attendent en général pour venir cambrioler une maison ? Que celle-ci soit vide. Et notre cœur, votre cœur, est une maison. Une maison que le voleur, Satan, veut dérober. À plusieurs reprises d'ailleurs dans l'histoire d'Israël, on a des exemples de ce peuple qui a réalisé un grand nettoyage mais qui s'est arrêté là. On peut revoir à l'époque d'Esdras, le peuple qui s'est débarrassé de l'idolâtrie, mais qui n'a pas réussi pour autant vraiment à la remplacer par l'amour pour Dieu, à l'obéissance à sa volonté. Du temps de Jésus, Israël a balayé, garni sa maison, cherché à l'entretenir avec des lois, des armées, mais celle-ci était aussi restée vide, parce que Israël n'avait pas voulu dire « Seigneur, voici ta demeure. Viens et règne sur nous. » Non, ils ont plutôt fermé la porte. Ils ont fermé la porte à Christ. Et donc la maison était restée vide. Chasser le péché de notre vie n'est que la première étape. Une seconde doit suivre. Remplir notre esprit de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. L'homme se contente de vider, de purifier son intérieur sans le remplir ensuite de Dieu. Et ainsi, il offre une belle occasion d'y entrer. Des personnes vides et satisfaites d'elles-mêmes sont des proies faciles pour le diable. Alors nous devons toujours nous appuyer sur Dieu, le chercher. Chercher à le placer au centre de notre cœur, de nos pensées, de notre vie. Nous sommes gardés par Dieu. Si nous lui appartenons, nous sommes gardés par Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous devons être négligents. Nous devons au contraire être vigilants. Car si nous sommes gardés, c'est au travers d'une foi qui persévère, d'une foi qui marche dans la sanctification. Nous sommes gardés au travers des moyens de grâce que Dieu nous donne et que nous devons prendre activement. L'ennemi est redoutable et si nous ne sommes pas près du Seigneur, nous sommes vulnérables. Encore une fois, il nous faut donc veiller. Veiller en sachant que tout nous a été donné par Dieu pour vaincre la puissance du diable. C'est par la puissance de Dieu, par les armes spirituelles qui nous sont données, et non par notre force que nous en sommes libérés et que nous pouvons lui résister. Seule la puissance de Dieu, capable de nous délivrer de Satan, peut également nous protéger de son retour. Mais qui pourrait donc être cet homme que l'ennemi arriverait quand même à reprendre. Ça pourrait être un homme qui mène une bonne vie, mais qui n'a pas Christ, car il n'en ressent pas le besoin. Un homme qui est dans l'aisance peut-être, financière ou simplement dans de situation, mais qui ne voit pas sa misère véritable. Et donc il se dit, mais pourquoi aller chercher Dieu en plus ? Dans les Proverbes, chapitre 30, on peut lire qui nous est dit « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ? ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Mais cela pourrait être aussi quelqu'un qui aime le christianisme, mais qui n'aime pas Christ. Qu'est-ce que ça signifie aimer le christianisme ? C'est aimer la religion. Le sentiment que l'on peut ressentir en étant peut-être dans un lieu saint, dans une certaine ambiance. Ou quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui va aimer l'apport du christianisme dans la société, les valeurs, la justice qu'elle promeut. Qui aime peut-être les doctrines. Quelqu'un en sorte qui essaye d'être chrétien, mais en se convertissant uniquement à la morale chrétienne. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ça se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 16. Anathème, ce qui veut dire condamné, exclu du peuple de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être chrétien et ne pas aimer Christ. Mais ça peut être aussi un homme qui laisse sa maison vide. Pourquoi ? Parce qu'il invoque le secours de Dieu, mais sans vouloir non plus se convertir. Il va l'invoquer pour une aide temporaire. Il en a besoin face à certaines circonstances. Il va appeler au Seigneur, il va peut-être crier, mais il ne va pas venir à la repentance. Quelqu'un qui cherche Christ, mais ne le veut pas lui, mais simplement son secours temporaire, son aide pour le moment. Qui cherche Christ par rapport à ce qu'il pourrait en retirer, mais qui ne le veut pas vraiment pleinement dans sa vie. Dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 2 à 5, nous mettent en garde également face à une génération méchante. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Toute une génération qui ne cherchera que le cosmétique, qui aura peut-être parfois l'apparence de la piété, mais pas la force, pas la source, qui en est Christ lui-même. Et lorsque le mal arrive à reprendre de la place, avant même qu'il ne reprenne même peut-être toute la place, frères et sœurs, cela doit nous interroger et nous alerter. Si cela arrive, s'il arrive à nous atteindre, cela signifie alors que nous sommes trop loin de Dieu, que Christ n'est peut-être pas réellement, ou en tout cas tout du moins pas encore suffisamment, en nous. Qu'il nous faut venir encore plus près de lui, pour lui dire vraiment « Oui Seigneur, viens habiter dans mon cœur ». Il nous faut inviter le propriétaire légitime de notre cœur à s'établir en nous. Verset que je pense beaucoup connaissent, Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » De notre cœur viennent les sources de la vie, se trouve aussi dans les Proverbes. Et s'il n'est pas rempli par Christ, nous laissons Satan s'en servir pour parvenir à sa fin, qui est de nous éloigner de Christ, de tout faire pour creuser un fossé entre nous et notre Créateur. Un fossé éternel qui ne nous sera plus possible de franchir. Et on peut le voir, cet exemple de ce fossé, si vous prenez la parabole de l'homme riche, de Lazare, dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Alors oui, ce matin, je souhaite vous poser cette question. Sans jugement aucun, frères et sœurs, et comme je veux me la poser à moi-même également. Peut-être que ma demeure est propre, mais est-elle occupée par Christ ? Est-ce parce que Christ habite dans ma maison ? Que ma maison est propre ? Ou est-ce pour faire de la place pour autre chose ? Pour mes propres œuvres, peut-être ? Alors oui, frères et sœurs, si nous ne voulons pas subir le retour de l'esprit impur, ayons une vie constamment sanctifiée, consacrée à Dieu, à son service. Sans quoi notre condition sera pire que la précédente. Ce que nous dit le verset 45. Une condition pire à laquelle nous ne pourrions nous opposer. Si un esprit impur revient, dans le texte, il est écrit qu'il revient pour se réinstaller, mais pas seul. Il amène avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et tous s'installent. Donc notre propre volonté ne peut résister à ce retour, qui est un retour en force, Alors le chiffre 7 ne signifie pas littéralement qu'il y aura forcément 8 esprits impurs. Mais ce chiffre est donné comme une image pour montrer la plénitude de l'efficacité de ces esprits mauvais pour reprendre le contrôle de la vie de cet homme, de notre vie, de la vie de cet homme qui cherchait à lui échapper, que le Seigneur avait délivré, mais qui est désormais dans une situation plus désastreuse que la première. Dans la deuxième épître de Pierre, on peut lire « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Cette condition pire qu'auparavant peut se vivre parfois dès maintenant sur la terre. Avoir un sentiment de vide, de vanité, d'une existence sans Dieu. On peut parfois avoir une décadence morale aussi, présente déjà ou qui va arriver, peut-être même donc après une réforme morale temporaire dans notre vie. Nous avons essayé de sortir de toutes sortes de péchés par nos propres forces, en réussissant peut-être pendant un certain temps, mais souvent la rechute est pire. C'est une dernière fois, cher Spurgeon, ce matin, il ne fait aucun doute que les rechutes dans le péché sont, comme les rechutes dans la maladie, encore plus dangereuses que la maladie originelle. Pourquoi ? Aussi, parce que le problème n'est pas de changer nos actions, mais de changer notre cœur. Pour reprendre encore un exemple que j'ai pu entendre dans une prédication, un pasteur avait pris cet exemple d'une inondation, une inondation qui s'était déclarée dans une maison. Une personne était présente. Savait pas quoi faire. Donc elle a décidé, au bout d'un moment, elle était perdue, elle a dit je vais éponger. Et puis elle a commencé à éponger. Bien évidemment, elle s'en sortait pas, elle a pas réussi. Elle s'était dit, je vais éponger dans l'espoir que ça va aller mieux, mais non. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'était pas éponger qu'il fallait faire, c'était couper la source de l'inondation. Fermer le robinet peut-être général de la maison, mais aller à la source. Et dans notre vie, c'est la même chose. Nous essayons d'endiguer le problème, de balayer ce qui doit l'être. Mais si nous n'allons pas à la source, si nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur, eh bien, cela ne servira à rien. Nous avons besoin que Christ vienne changer notre cœur qui déborde du péché. Pour certains, l'inondation peut sembler évidente, le péché se voit davantage peut-être dans leur vie, mais en réalité, tous nous sommes concernés. Tous nous avons besoin que Christ vienne à la source, vienne guérir notre cœur, qu'il vienne vivre pleinement dans notre vie, afin de nous protéger de cette condition qui serait pire que la première. Et peut-être même que cette condition pire se manifesterait encore aujourd'hui différemment sur la terre. Mais quoi qu'il en soit, même si peut-être elle ne se manifeste pas encore aujourd'hui, ce dont on peut être sûr, c'est que pour tous ceux qui seront loin de Christ, lors de son retour, cette condition sera vraiment pire que la première, mais de manière éternelle. Pour ceux qui ne l'attendent pas, ceux qui n'ont pas déjà Christ en eux, qui ne l'acceptent pas encore pleinement, c'est une ruine éternelle qui les attend. Et pour conclure ce message, je vais me permettre encore d'insister une dernière fois sur ce point, frères et sœurs, nous avons besoin de Christ. Si je reprends le chapitre 12 de Matthieu, un peu plus haut, donc chapitre verset 22 à 30, Jésus explique qu'il y a bien deux royaumes qui s'affrontent. Donc le royaume de Dieu et celui de Satan. On les a déjà évoqués ce matin. Verset 28-29, Jésus dit « Mais si, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. » Ces versets nous montrent que pour que les captifs soient délivrés, il faut que la puissance de Satan soit restreinte, qu'elle soit liée. Et c'est bien ce que Jésus a fait pour nous. Il est venu pour nous arracher par sa puissance du royaume des ténèbres et pour nous transporter dans son propre royaume. Jean chapitre 8 nous dit « en vérité, je vous le dis », leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le ministère de Jésus fut d'établir la nouvelle alliance par sa mort sur la croix pour le salut de tous ceux qui croient, ainsi que l'envoi du Saint-Esprit dans le monde pour se faire connaître et convertir les hommes. Par ce ministère, Jésus a chassé Satan de notre vie et nous a fait passer des ténèbres à la lumière, à la vie éternelle avec lui. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de Christ pour être délivrés. Délivrés du péché, délivrés du mal, de Satan. Tous les hommes sont sous la domination de Satan à moins d'être affranchis par Christ. Et maintenant que cette transformation a été réalisée par Christ, nous avons toujours besoin de lui pour continuer à le rechercher, à lui faire cette place qu'il mérite, qui lui est destinée dans notre cœur, pour qu'il puisse y habiter pleinement, pour qu'il puisse continuer aussi son œuvre en nous, une bonne œuvre qu'il a commencée en nous et qu'il rendra parfaite pour le jour de son retour. Passage qui se trouve dans Philippiens. Je vais terminer encore avec un dernier passage qui se trouve dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 23. Alors je ne vais pas lire l'ensemble des versets, je vais prendre les 2-3 premiers et puis la fin. Mais ce passage nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Je vais aller au verset 19. « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. » Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Oui, demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, je vous invite à faire toute la place, Seigneur, toute la place dans votre cœur, mais vraiment pour que ce soit lui qui puisse venir s'installer, lui qui vive en vous, lui qui vienne pour... Voilà, ça ne sera pas facile, c'est difficile de le laisser faire, de le laisser vraiment tout chasser. Tout ce qui est mauvais en nous, on a toujours envie de se raccrocher, toujours envie, peut-être même des choses qu'on ne savait pas qui vont revenir, qu'on va découvrir sur nous-mêmes. Mais laissons-le agir, laissons-le vivre en nous et alors vraiment nous verrons aussi toute sa gloire déjà ici sur la terre, avant même de pouvoir vraiment être avec lui et pleinement dans sa gloire. Amen.